Il n'aura pas forcément une bonne définition ou une définition précise, mais c'est quand même fréquent. Moi, aujourd'hui, dans les personnes qu'on peut suivre, il y a énormément de gens qui, facilement, se demandent si eux-mêmes ne présentent pas un TDAH. C'est pas tant de dire oui ou de dire non. Parce que nous, psychologues, c'est pas tant la vérité ultime qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire, selon vous, que vous avez un TDAH? Et selon la réponse de la personne, c'est toujours le reflet d'une forme, d'une certaine petite inquiétude. Maintenant, est-ce qu'elle est légitime? C'est-à-dire que cette inquiétude-là, effectivement, elle est cohérente avec les critères diagnostiques du TDAH? Ou alors, est-ce que c'est juste le reflet d'une pression que l'on se met sur l'idée de la performance, de faire ça, là j'arrive pas à me concentrer, je suis pas assez efficace là-dessus. Et qu'en réalité, quand on voit ce qui amène la personne à s'interroger sur son TDAH, souvent il peut y avoir quelque chose plutôt de l'ordre d'un trouble anxieux, d'une anxiété de performance, d'un souci, de quelque chose qui va être différent. Et pas forcément les réels critères diagnostiques du TDAH. Et c'est dans ce sens où, pour les professionnels de santé, il est important d'avoir un apport de connaissances sur le sujet pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que le TDAH en réalité, et d'être en capacité de le repérer, de conforter, de confirmer une inquiétude dans ce sens, d'orienter vers un professionnel qui va être en mesure de poser le diagnostic. Et ici, pour le TDAH par exemple en particulier, dont on parle énormément sur les réseaux sociaux parce qu'il y a énormément de vidéos TikTok ou autres qui traitent ce sujet-là, avec beaucoup de personnes aussi qui témoignent de leurs difficultés personnelles, avec une confusion entre l'expression de la singularité d'un individu et l'expression globale de la définition d'un trouble. Pour revenir sur l'autisme par exemple, il y a des personnes qui peuvent parler de leur autisme sur les réseaux sociaux, très bien, mais ça reste leur autisme. Il peut arriver que des adolescents par exemple qui viennent pour un diagnostic me disent « mais bah non, moi je peux pas être autiste parce que je suis pas du tout comme Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, une série américaine où la personne n'est jamais dit qu'il est autiste, mais son fonctionnement est quand même très typique de ce qu'on appelait avant un syndrome d'Asperger. » On retrouve presque le côté poussé à l'extrême des caractéristiques, de certaines caractéristiques de l'autisme. Donc c'est plutôt cohérent. D'où la notion de spectre. Il y a plusieurs façons d'exprimer l'autisme, en l'occurrence. Et c'est pas parce que vous ne correspondez pas à l'une de ces façons que vous n'êtes pas pour autant vous-même concerné par l'autisme. Et tout l'enjeu de sensibiliser les professionnels, les soignants, les enseignants, et autant que possible les familles. Quand quelqu'un a eu un diagnostic de TSA, par exemple, on sait que ça fait partie de recommandations, de lui proposer à son entourage, à sa famille, de bénéficier de formations, de sensibilisation. Des formations, le CRA propose la formation des proches aidants, par exemple, qui sont gratuites. Il n'y a pas de surcoût financier, en fait. Elles peuvent venir à des formations comme ça qui leur présentent l'autisme en général, les comportements problèmes, ce genre de choses. Des difficultés, des comportements sexuels. Cette thématique-là est aussi une thématique très importante pour accompagner les personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement afin de s'épanouir dans leur intimité au même titre que n'importe qui a besoin de s'épanouir dans son intimité. Quand on a un TDAH, votre disponibilité, elle ne va pas être la même. Mais un enfant TDAH, dans ses passions, c'est l'école. Eh ben, la motivation ou l'intérêt qu'il aura pour l'école peut aider à compenser largement ces difficultés qu'il a à rester concentré, à être attentif. Mais parce que pour lui, ça l'intéresse énormément. Un autre enfant qui aurait, on imagine, le même niveau de TDAH, mais où lui, sa passion, c'est le sport, et que du coup, l'école, moins, eh ben, il a moins de chances que les autres enfants, mais en tout cas, il aura moins d'opportunités, il aura moins de fenêtres pour se saisir des opportunités d'apprentissage. Et c'est pour ça que, pour la question du traitement médicamenteux dans le TDAH, c'est une discussion à avoir avec le médecin, et une fois qu'on a bien confirmé qu'il n'y avait pas de contre-indication physique ou de particularité individuelle qui ne permettent pas qu'on introduise le traitement, être sûr qu'il n'y a pas de problème cardiaque, eh bien, une fois qu'on a écarté ça, il y a la possibilité d'introduire le traitement pour le TDAH. Par habitude, je peux vous dire que ce traitement, il a l'avantage d'être assez efficace, au sens où quand il est introduit, très vite, on voit les résultats. C'est l'histoire d'une journée, deux jours, tout de suite, il voit une différence énorme. C'est-à-dire que si ça ne change rien pour la personne et qu'elle n'est pas réceptive au traitement, eh ben on va le savoir tout de suite. Il n'y a pas non plus d'effet d'accoutumance. Il n'y a pas d'effet secondaire majeur. Et le dernier aspect aussi, c'est que la personne, elle peut maîtriser sa prise de traitement. C'est-à-dire que dans le TDAH, elle peut identifier que l'enfant, par exemple, quand il est à l'école, tout va bien, mais il sait que souvent le vendredi, c'est difficile, parce que c'est la fin de la semaine, c'est plus dur. C'est les matières qui l'intéressent moins. Eh ben il peut aussi faire le choix de ne prendre le traitement que le vendredi. Il n'est pas obligé de le prendre tous les jours. Il peut y avoir un traitement comme ça qui s'ajuste. Des adultes qui ont un TDAH, par exemple, peuvent avoir le traitement et ne le prendre que s'ils sont exposés à une réunion très importante ou quelque chose qui aujourd'hui a un enjeu et qui font que leurs petites stratégies personnelles pour essayer de réguler leur attention vont être éprouvées davantage ou ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc il y a cette idée-là. Le traitement n'est pas une nécessité absolue, ça doit être discuté avec le médecin. Il est important de prendre en compte globalement la vie de l'individu et pas juste il y a un TDAH, mais quels sont ses intérêts, quels sont ses besoins, comment elle évolue, comment ça va sa vie globalement. N'oublions pas que d'avoir un TND, ça expose à plus de troubles, de ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des troubles qui viennent se greffer à l'autisme, au TDAH. Et notamment, des personnes qui présentent un trouble neurodéveloppement ont plus de probabilités d'être exposées à un trouble anxieux, à de l'anxiété, à de la dépression, au passage à l'acte suicidaire, que quelqu'un d'ordinaire. Elles ont un poids à porter sur leurs épaules supérieur à celui des autres enfants. Un autre enfant qui n'a pas de TND, s'il est exposé à quelque chose, eh bien, il a plus de ressources, plus d'énergie. Alors qu'un enfant qui a un TND, il a déjà beaucoup dépensé d'énergie pour contrebalancer les répercussions négatives de son autisme ou de son TDAH, par exemple. Sans oublier les enfants qui ont et de l'autisme et un TDAH. Dans les troubles du neurodéveloppement, la règle, c'est plutôt d'en avoir plusieurs. Plus on en a, plus on a de risques, plus on a de probabilités d'en avoir. Donc du coup, ces enfants-là doivent faire face à plus d'obstacles et donc peuvent être plus vulnérables à un épuisement, une fatigue ou un trouble anxieux par exemple. Ça ne veut pas dire que tous les enfants. Certains s'en sortent très bien et il y a des enfants qui n'ont pas du tout de TND, qui n'ont pas de facteurs de risque et qui pour autant sont exposés à de la dépression, à des difficultés de ce type-là. Tout l'enjeu pour nous, c'est de connaître ces risques-là et de prévenir, d'accompagner et de sensibiliser les familles, les professionnels pour qu'ils repèrent mieux ça et qu'on ne passe pas à côté de quelque chose sous prétexte du c'est le TDAH, alors que non, ça c'est la dépression. C'est pas juste parce que l'enfant va prendre le traitement qu'il va plus être exposé à la dépression. Il faut être vigilant sur toutes les dimensions et qu'un enfant qui a un TDAH et qui prend son traitement, comme n'importe quel enfant, le soir quand il rentre, eh ben, c'est toujours intéressant qu'à un moment on lui demande comment s'est passée sa journée, qu'est-ce qui s'est passé. Et souvent, ce qu'on pense pas à faire, c'est comment s'est passée sa journée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a eu des échanges agréables? Est-ce qu'il y a des choses qui l'ont crispé? Et donc, être vigilant à l'enfant, à son bien-être, comme avec n'importe quel enfant, qu'il ait ou pas le traitement pour TDAH, c'est quelque chose qui va être très important. Pour faciliter la communication, faciliter le lien, donner à l'enfant l'opportunité qu'il puisse communiquer. Parfois, il le fera pas. Mais au moins, il peut être rassuré et sécurisé parce qu'il sait qu'il a cette possibilité-là. Est-ce que le traitement va augmenter la probabilité de ces risques-là? Il n'y a pas forcément de lien direct, parce que ce qui va augmenter la probabilité de ces différents risques, c'est les facteurs dans la vie en général qui vont accentuer ça. On va donner un exemple concret. Un enfant qui a un TDAH, qui reste à la maison parce qu'il n'arrive pas à se concentrer et on s'interroge sur une phobie scolaire. Le fait qu'il prenne le traitement, il va être un petit peu plus à l'aise pour l'école, il va aller à l'école. Quelques semaines après, on va identifier qu'il y a du harcèlement et qu'il va développer une forme de dépression plus avancée. Question, est-ce que c'est l'introduction du traitement qui a provoqué ça? On est incapable de répondre à cette question. Ça a été une des dimensions qui a, dans un ensemble, amené à ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de bien comprendre qu'un traitement médicamenteux, il n'est jamais à considérer seul, mais à considérer dans une prise en charge globale du patient et de l'état de ses difficultés. Quand vous allez consulter un médecin, par exemple pour un TDAH, pour avoir une question de diagnostic et vous voulez savoir s'il faut ou pas introduire le traitement, le médecin, il ne vous dit pas « TDAH, ok, voilà le traitement, au revoir ». Il vous demande comment ça se passe en ce moment, comment ça se passe à l'école, c'est quoi sa vie, qu'est-ce qui s'est passé avant, comment dans la famille, comment ça se passe. Il va chercher à identifier, est-ce que dans la famille, il y a plus de risques anxieux? Est-ce qu'il y a des éléments notables dans la famille proche? Et c'est pour ça qu'il y a un long entretien qui va précéder. Et c'est le recueil de toutes ces informations-là qui vont permettre au médecin de mieux appréhender le patient dans sa globalité pour, à partir de là, vous faire une proposition, une prescription du traitement, de l'usage. Et ensuite, une fois que le traitement est introduit, il y a un suivi. C'est-à-dire que le médecin, vous le revoyez pour refaire le point d'où on en est. Est-ce que le dosage est correct? Il faut l'ajuster? Et est-ce que, globalement, la vie, comment ça va? Est-ce qu'il faut prendre d'autres dimensions en compte, en plus du traitement du TDAH, par exemple?
Aujourd'hui, le grand public connaît mieux des termes comme l'autisme ou le TDAH, mais leurs définitions restent parfois floues. Avec les informations des réseaux sociaux, certaines personnes s'interrogent sur elles-mêmes. Le rôle des professionnels est donc non seulement de poser un diagnostic, mais aussi de comprendre l'origine des difficultés. Des troubles comme le TDAH peuvent parfois être liés au stress ou à l'anxiété, et il est important de ne pas confondre une particularité avec un véritable trouble. Quand un traitement médicamenteux est bien adapté, il peut être efficace rapidement et utilisé de façon ciblée, par exemple à l'école ou dans des situations demandant beaucoup de concentration. La motivation ou l'intérêt pour certaines activités peut aussi aider l'enfant à compenser ses difficultés.
Il faut mettre moins de pression. Et donc c'est intéressant de remettre les choses en perspective et se dire de quoi tu as besoin toi pour être heureux. Qu'est-ce qui est un obstacle aujourd'hui au fait de te sentir heureux? Alors bien sûr, t'es adolescent, donc c'est compliqué l'adolescence. Alors, certains plus que d'autres, ils n'ont pas forcément envie d'en parler, encore moins avec leurs parents. Mais en tout cas, d'identifier que ses besoins aujourd'hui dans la vie, ce qui vont être utiles pour se construire en tant qu'individu, son cerveau, ses émotions, toutes ces dimensions-là, pour être un adulte épanoui demain, de quoi il a besoin aujourd'hui. Clairement, d'expliquer à un adolescent que son contrôle de maths de la semaine prochaine, dans 10 ans, ça n'existera plus pour lui, ça sera complètement différent. D'investir aujourd'hui sur sa santé mentale, c'est important parce que dans 10 ans, votre adulte, l'adulte que vous serez plus tard, il vous remerciera du temps que vous avez passé et du temps que les parents ont passé avec vous ados pour consolider une santé mentale solide. Ça peut être, par exemple, pour quelqu'un qui a un TDAH, de s'interroger sur l'intérêt du traitement. Mais d'introduire le traitement, c'est pas gravé dans le marbre non plus. On peut le mettre, on peut le retirer, on peut le remettre plus tard, on peut se dire, bah, en ce moment, ça va. Et là, j'en échange avec le médecin qui va identifier quel traitement serait le plus pertinent pour lui dans ce contexte-là. Et que l'école, c'est important aujourd'hui, mais il faut arriver à s'en détacher aussi que c'est pas l'école qui fait votre vie. Tous les adultes qui sont là dans cette pièce, peut-être ceux qui nous écoutent, ont le souvenir d'avoir eu à un moment une mauvaise note ou quelque chose quand on était au collège ou au lycée qui était une catastrophe, mais souvent il faut chercher. Ce qui était une catastrophe, c'était la personne, votre crush de l'époque, qui vous a ignoré pendant 2 jours. Ça, c'était une catastrophe et sans doute que vous en souvenez. Mais de savoir que le contrôle de maths que vous avez travaillé, que vous avez une mauvaise note et que vous vous dites « Ah là là, je suis foutu » et qu'en fait, ça n'a eu aucun impact puisque vous avez grandi, vous avez travaillé, vous avez développé vos intérêts, vos compétences. Et ce qui était si important pour vous à l'époque, ça a disparu aujourd'hui. Quand, avant Pronote, un ado qui avait une mauvaise note à l'école, il anticipait « Qu'est-ce que les parents vont dire ? Comment je vais leur dire ?» Il pouvait maîtriser ça, il s'entraînait à gérer cette émotion un peu négative et l'appréhension de la réponse du parent. Du coup, il y pensait. Peut-être que le soir même, ben, il n'avait pas le courage, il ne disait pas. Donc il prenait sur lui, il disait l'autre jour, il cherchait des stratégies. Et il s'entraînait comme ça à développer des compétences sociales qui, dans un contexte où c'est important l'école, il disait, mais il n'y a pas non plus d'urgence. C'est-à-dire que, au final, la mauvaise note, elle est là. Les parents vont réagir plus ou moins bien. Mais c'est une façon de s'entraîner à annoncer une mauvaise nouvelle, s'entraîner à gérer des rapports avec nos parents, nos proches, des gens qui attendent des choses de nous. Et quand vous grandissez et qu'après vous êtes étudiant, que vous êtes adulte, dans le monde du travail, et cette compétence-là, vous êtes tout le temps en train de la mobiliser. Parce qu'il y a toujours un moment, alors certains plus que d'autres, mais la nécessité de devoir donner une information à quelqu'un et d'avoir eu l'occasion de s'entraîner à le faire avec des compétences sociales meilleures et une régulation des émotions meilleure quand on est enfant, quand on est adolescent, où il n'y a pas forcément d'enjeu, et c'est mieux que d'attendre le moment où on est adulte et où là, il y a des enjeux. Et que Pronote, quelque part, prive les enfants de cette capacité-là. Les enfants vivent aujourd'hui avec Pronote comme d'autres ont vécu avec d'autres outils. L'intérêt aujourd'hui, c'est pas de dire Pronote c'est mal, il faut le retirer, parce que c'est là. C'est de se dire comment on permet aux enfants, aux adolescents, d'évoluer dans un monde où on leur donne d'autres opportunités de travailler ses compétences sociales, relationnelles, autrement. Parce que ce qui compte, c'est pas d'annoncer la mauvaise nouvelle aux parents. Ce qui compte, c'est de s'entraîner à cet échange, à ces interactions et la régulation des émotions que ça implique dans notre vie d'adolescent. Qu'on le fasse à travers les notes ou qu'on le fasse à travers autre chose, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on le fasse. D'où l'enjeu de travailler sur des discussions, des échanges. Finalement, si l'ado, il s'entraîne pas en ayant dire à sa mère qu'il a une mauvaise note, mais qu'il s'entraîne en le disant à sa mère autre chose, ou que comme il a fait des jeux vidéo avec elle, par exemple, et que là, y a un truc qu'il a pas réussi, ou que finalement, là, ils sont dans un jeu en réseaux sociaux et que sa mère a joué avec lui, mais qu'elle n'est pas très bonne et qu'il doit expliquer à sa mère que dans son groupe sur Internet, elle ne pourra pas participer au raid parce qu'elle n'est pas assez bonne et qu'il faut le dire à maman. Et c'est une manière de développer des compétences. Et ça, c'est ça qui compte. Donc, ce qui compte finalement, c'est donner aux ados l'occasion de partir de leur centre d'intérêt pour qu'ils développent des stratégies de communication, d'échange avec leurs moyens, leur langage, leur code. Mais qu'en tout cas, tout cela leur permette de s'entraîner à gérer leurs émotions, à comprendre les émotions des autres, à réguler leurs émotions. Parce que plus les personnes vont être en capacité de maîtriser ça, plus il y a de chances aussi que ça contribue à un équilibre qui viendrait apaiser le risque de développer des troubles de santé mentale. Et ça aide, en tout cas, à développer plus de ressources. Et plus de ressources, ça vous permet de mieux gérer. Et ça, c'est ça qui compte. Si on n'a pas toutes les règles, il faut faire avec les règles qu'on a et développer des stratégies pour pouvoir mieux jouer. Le TOP, c'est une autre catégorie que dans les TND. Le TOP ne figure pas parmi les troubles du neurodéveloppement, c'est dans d'autres classifications. Ça existe, c'est quelque chose qui peut être aussi présent. Le TOP va être caractérisé par vraiment cette incapacité à réguler ses colères. En fait, quelque part, à chaque fois qu'on lui propose quelque chose qui n'est pas spontanément ce que lui aurait voulu, ce qu'il veut faire, s'opposer en permanence et être dans la contestation, mais systématique. Et ça, c'est important de le distinguer de la phase du jeune enfant ou de la phase du non pour le tout petit et la phase de l'ado où, par principe, l'ado n'est pas d'accord avec vous. Néanmoins, l'ado, si vous amenez les choses pour être d'accord avec lui, il peut être content. Et qu'à un moment, tout le monde a besoin de tester la résistance du cadre familial pour s'assurer qu'il va évoluer dans un cadre sécurisant. Donc de tester quelque part un petit peu les limites, c'est une étape qui peut être nécessaire. Maintenant, le TOP, lui, ne peut pas faire autrement, c'est complètement envahissant, et c'est peu probable. C'est pas du tout quelque chose de fréquent dans la population. Et que souvent, il y a des familles ou des parents qui s'inquiètent parce qu'ils ont entendu parler du TOP, et comme leur enfant, leur ado, est jamais d'accord avec eux, est tout le temps dans la contestation, pensent que ça peut être un TOP. Et c'est ici que d'aller consulter un professionnel, et comme pour le TDA, poser la question, comment ça va la vie globalement, qu'est-ce qui s'est passé avant, les antécédents familiaux. Toutes ces dimensions, ce qu'on appelle nous l'anamnèse, le parcours de vie global de l'individu, pour mieux appréhender son fonctionnement aujourd'hui, sa vie aujourd'hui, et pour identifier quelque part un peu ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'on va chercher qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait expliquer ce comportement-là. Par exemple, pendant l'adolescence, il peut y avoir des enfants, des adolescents en particulier, qui sont très contestataires, voire violents, et qui peuvent faire preuve d'une agressivité décuplée auprès de leurs parents, auprès des frères, des sœurs, alors que jusqu'à présent, les parents décrivent la personne plutôt comme plutôt calme et bienveillante. Et donc, je pose cette question-là, d'identifier qu'est-ce qui pourrait amener ça. Il arrive que des personnes qui sont victimes de harcèlement vivent tellement mal le fait d'être attaquées en permanence dans un milieu scolaire qui n'est pas sécurisé pour eux, ce qui les amène pour essayer de retrouver un équilibre à, dans un environnement qui est sécurisé pour eux, dans lequel ils ont confiance, où ils savent qu'il n'y aura pas forcément de répercussions négatives pour elles, ils vont attaquer cet environnement-là. Finalement, ils déplacent à la maison la contre-attaque qu'ils n'arrivent pas à déployer dans l'école parce que l'environnement est insécure ou trop risqué pour eux. Alors qu'à la maison, ils savent que c'est sécure, je suis en sécurité, donc je peux m'autoriser à être un petit peu plus dur, vindicatif. Et quand on va gratter, ça va être tout notre travail, d'identifier qu'est-ce qui fait que la personne réagit comme ça à la maison. Est-ce que c'est parce qu'à l'école, ça se passe mal et que j'en peux plus, je souffre trop, donc je me défoule à la maison, parce qu'à l'école, je dois prendre sur moi, parce que j'ose pas me défendre, parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait être gentil, pas attaquer, pas faire de mal, et que ça, c'est difficile pour l'adolescent. Est-ce que c'est parce qu'il y a autre chose? Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Dans la prévention des violences au sens large, dans la question de la gestion du trauma, du traumatisme, notamment pendant l'enfance, il peut y avoir des dimensions comme ceci qui s'accumulent et qui font qu'à un moment, la personne explose. L'explosion, c'est la conséquence de qu'est-ce qui s'est passé avant et qui fait qu'aujourd'hui, ça a explosé. On peut parler très longtemps de comment ça a explosé. Souvent, c'est plus intéressant de savoir qu'est-ce qui a amené l'enfant à exploser. Notamment pour établir avec lui, quel que soit son profil, la confiance, l'alliance qui va être nécessaire pour qu'il se sente à l'aise de pouvoir expliquer que oui, lui il tape sur ses camarades à la cour de récréation, il ne peut pas faire autrement. Et que c'est trop facile, qu'on lui dise c'est pas bien, c'est mal, qu'on amène de la morale, alors que l'idée c'est plutôt de l'accompagner pour comprendre qu'est-ce qui dans son cheminement à lui a fait qu'il n'a pas pu faire autrement à ce moment-là que de faire ça. Et déjà de le respecter, lui, en tant qu'individu, pour comprendre les mécanismes qui l'ont amené à faire ça, et éventuellement identifier sur quel levier on va pouvoir jouer pour faire en sorte que, il trouve d'autres stratégies qui soient respectées dans sa souffrance, sa singularité, et que ainsi on lui permette de développer un répertoire plus adapté de comportement. Si la personne, elle vient et que moi je lui dis directement c'est pas bien de taper, tu le sais que c'est pas bien de taper, donc tu feras ça, tu seras puni, je vais juste creuser encore plus le fossé de cet enfant qui n'a pas de moyen d'être entendu dans sa souffrance et qui du coup, je l'ancre encore plus dans l'idée de je vais moi-même le punir, donc je lui montre que la punition, c'est le moyen de résoudre les problèmes. Et donc lui, taper, c'est une manière de punir. Ça peut être aussi, les personnes avec un trouble de neurodéveloppement peuvent présenter ça. Mais c'est pas exclusif, c'est aussi quelque chose de très lié au système d'éducation, à la présence d'adultes, à comment est-ce que l'adulte va être sécurisant, et avec un petit peu l'idée, si vous voulez, qu'un enfant qui arrive là et qui a tapé, par exemple, si moi je lui dis « c'est pas bien de taper, t'es puni », je pense que l'enfant va faire ce que je lui dis. Or, un enfant, il fait pas ce que vous lui dites, un enfant, il fait ce que vous faites. Alors que si l'enfant, il vient et que moi je lui montre de l'accueillir et lui dire « bon, voilà là, t'as pas pu faire autrement, c'était dur pour toi, t'étais en colère, qu'est-ce qui t'a mis en colère ?» et que je lui montre là qu'il peut parler, qu'il peut écouter, j'ai beaucoup plus de chances que ensuite, il soit réceptif à des stratégies après que je travaille avec lui en disant « Mais la prochaine fois que tu es en colère, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux venir voir l'enseignant. » Parfois, c'est trop dur, j'arrive pas à faire autrement. Et c'est tout l'enjeu de discuter, d'amener un échange, d'amener l'enfant à verbaliser ses émotions, les cheminements qui sont utiles, et de déconstruire aussi la réponse un peu systématique qu'on va pouvoir avoir et qui, parfois, ne peut faire que accentuer les comportements problèmes de la personne.
Il est important de prendre du recul face à la pression scolaire. Une mauvaise note n'impacte pas la vie future de l'enfant. L'essentiel est de comprendre ses besoins et de préserver sa santé mentale. Les outils numériques peuvent générer du stress, mais apprendre à gérer ses émotions et les réactions des autres est crucial. Le TDAH et certains troubles comme le trouble d'opposition nécessitent un suivi adapté et un diagnostic professionnel. Plutôt que de punir, il faut écouter l'enfant, comprendre ses tensions et l'aider à développer des réponses plus adaptées pour l'avenir.
Thank you. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Écoutez sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube.
Dans les troubles du neurodéveloppement, ce qu'on appelle les comportements problèmes, les crises, les colères, etc., qui peuvent être spectaculaires et qui peuvent paraître très inadaptées, elles sont en fait l'expression pour des personnes qui ont moins de codes sociaux, mais la même chose que cet enfant tout venant qui à un moment a tapé, a mordu à l'école. C'est-à-dire, c'est une tentative de communication échouée, la personne n'arrivait pas à se faire comprendre, elle n'avait pas d'autre moyen, et donc c'est ce moyen qu'elle utilise parce qu'elle n'en a pas d'autre. Donc tout l'enjeu, c'est de comprendre quel était son besoin. Le besoin est toujours légitime, hein, que si la personne elle a besoin qu'il y a trop de bruit autour d'elle, ou elle n'arrive pas à se faire comprendre, ou à la fin, elle a envie d'aller aux toilettes. Peu importe, c'est toujours légitime. C'est le moyen que la personne déploie pour obtenir satisfaction de ce besoin qui est inadapté. En particulier pour les TND, les moyens peuvent être en plus étranges, au sens de pas ceux de la plupart des enfants. La plupart des enfants, la plupart des adultes, peuvent avoir des comportements problèmes. Quelqu'un qui s'énerve tout seul dans sa voiture parce que la voiture de devant ne démarre pas au feu vert, c'est un besoin légitime, mais pas forcément adapté. Et du coup, là, on peut avoir des comportements dits problèmes chez tout le monde. De en comprendre les mécanismes pour des personnes avec TND qui sont moins réceptives aux codes sociaux, pour les aider à se les approprier et à déployer des stratégies qui soient efficaces pour résoudre leurs problèmes, et bien, ce sera beaucoup plus fonctionnel qu'à un moment, si l'enfant il est gêné par le bruit dans la cour de récréation, et bien qu'il apprenne à s'isoler, à demander de l'aide, à demander un objet pour se préserver, à s'éloigner de ceux qui font du bruit, ou à dire « stop, j'en ai marre », plutôt que de taper, eh bien, ce sera beaucoup plus fonctionnel qu'il y ait un TND ou qu'il n'y ait pas de TND, d'ailleurs. La neurodivergence, c'est un terme qui est utilisé pour décrire des personnes qui n'ont pas le fonctionnement qui est statistiquement le plus fréquent dans la population. On pourrait dire qu'une personne qui est neurodivergente, c'est une personne qui a un fonctionnement du cerveau qui est plutôt minoritaire par rapport à la population générale. Dans la neurodivergence, vous pouvez avoir des personnes qui ont un haut potentiel intellectuel, par exemple, un QI nettement supérieur ou qui ont d'autres types de fonctionnement. Les TND peuvent rentrer dans la neurodivergence, dans ce sens-là, si on veut. Pour certaines dimensions, c'est juste qu'ils sont minoritaires, donc il n'y a pas forcément des critères. On parlait tout à l'heure d'hypersensibilité, c'est un terme qui est entre guillemets à la mode, au sens où qui décrit des fonctionnements, mais qui n'appartient pas aux classifications diagnostiques des troubles tels que nous on l'entend. Pourtant, c'est véhiculé beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes se retrouvent là-dedans. Dans la mesure où des gens, ça leur est utile et elles se retrouvent là-dedans, c'est intéressant que nous, on se renseigne là-dessus. Si la personne a des questions, il peut être intéressant qu'elle consulte son médecin généraliste, par exemple, pour un enfant. Si des parents s'inquiètent pour leur enfant qui trouve des comportements qui, eux, leur évoquent un TDAH, une forme d'autisme, un TND au sens large, le médecin généraliste va pouvoir orienter et répondre aux questions. Passer les signes d'appel essentiels du très jeune enfant sur des retards du langage, des retards de la marche, ce genre de choses, qui vont vraiment alerter plutôt l'autisme. Et puis on a de suivi, là, vous voyez, dans la politique du gouvernement des 1000 premiers jours, il y a tout un tas de stratégies, d'outils qui sont à disposition des soignants pour aider à objectiver les comportements et repérer des atypicités pour orienter le mieux possible vers un diagnostic le plus précoce possible. Pour des enfants qui parlent bien, qui ont un bon niveau de langage, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'en fait, ce critère-là un peu très précis pour nous, il est moins évident. Et pour peu que l'enfant parle bien et qu'à l'école, ça se passe pas trop mal, plutôt scolairement que relationnellement, l'enfant de bonnes notes, il n'a pas forcément beaucoup de copains, mais comme il a de bonnes notes, ça alerte moins. Bien que, je mets quand même un petit bémol là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants sont de plus en plus sensibilisés à cette question, et même si l'enfant réussit bien à l'école, vont être capables de repérer des petites choses. Dans la culture, au sens large, dans les séries télé, les films, il y a de plus en plus de personnes neurodivergentes. Il y a des personnes avec autisme, des personnes TDAH, qu'on en parle, qu'ils manifestent de certaines formes, ça permet d'alerter. Il y a 15 ans, un reportage qui est passé sur France 2 qui s'appelait Cerveau d'Hugo, avec un film sur l'autisme et ensuite une interview en plateau de spécialistes qui parlaient de l'autisme. En France, au niveau national, le nombre de démarches diagnostiques qu'on a eues après ça, avec des gens qui nous ont dit « On a vu le cerveau d'Hugo, ça nous a interrogés parce que dans le cerveau d'Hugo, c'est mon enfant, c'est mon mari, c'est lui, c'est un tel. » Ça a fait exploser les demandes diagnostiques, c'était quand même très très intéressant. Parfois, ces personnages de la culture, des médias sont un peu caricaturaux, un peu excessifs, mais ils permettent d'abord d'être caricaturaux, type Sheldon Cooper, et ensuite d'être présents dans des films, dans des séries, de manière, c'est comme ça. C'est un détail, c'est l'expression de comment peut être un individu. Et là, on a passé un cap, c'est que ça devient banal. Et c'est intéressant que ça devienne banal, parce que du coup, ça permet à ce que tout le monde sache que ça existe, et s'interroge. Quand la personne me dit, moi je me demande si j'ai pas un TDAH, je me demande si mon fils, il aurait pas un autisme, ok, qu'est-ce qui vous fait dire ça? On en discute, on va échanger avec le généraliste, on va aller voir un spécialiste. Et comme ça, on va pouvoir confirmer ou infirmer. C'est très rare d'avoir des gens qui sont complètement à côté de la plaque. Il y a toujours des signes d'inquiétude qui sont légitimes. Ces inquiétudes-là, pourtant, ne sont pas forcément de nature à coller au diagnostic du TDAH, de l'autisme. La personne est très agitée, elle s'agite beaucoup. Est-ce que c'est un TDAH? On creuse et en fait, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est très curieux, qui a une ouverture sur le monde, et voilà. Mais qu'il n'y a pas les critères au point que ce soit problématique. Et dans l'expression de la singularité de la personnalité, il y a des gens qui sont plus inhibés, d'autres qui sont plus agités. Toute la difficulté pour nous, c'est de faire la différence entre être dans les normes, quelqu'un qui est plutôt dynamique, qui bouge beaucoup, mais être à s'agiter tant et si fréquemment que ça en devient caractéristique du trouble et que donc c'est le reflet d'un trouble du neurodéveloppement, des briques en plus dans son sac à dos, dans son cartable pour aller à l'école, pour le soulager de ces briques-là. Si c'est juste l'expression de sa personnalité, de sa singularité, c'est super. Mais dans ce cas-là, ce ne sont pas des briques, c'est plutôt des dynamiques qui vont l'aider, ça va être plutôt des ressources. C'est quelqu'un de dynamique, ça va lui servir dans la vie d'être quelqu'un de très dynamique. Mais il peut être tellement dynamique que ça devient une brique, et c'est là où il peut y avoir de l'ajustement. C'est le continuum un peu du normal au pathologique, confirmer le diagnostic de troubles neurodéveloppement et mettre en place des modalités d'accompagnement en conséquence, mais ça peut être aussi écarter le diagnostic. Ce qu'on va proposer pour des personnes TDAH, elle peut aussi en bénéficier. C'est pas à cloisonner. Toutes les techniques d'intervention qu'on déploie pour des personnes avec autisme, des personnes qui ne sont pas autistes, elles sont très contentes d'en bénéficier. Ça va beaucoup les aider. Pour beaucoup, ils ont déjà, ils n'ont pas besoin. Mais en tout cas, c'est pas du tout perdu. Donc, dans le doute, on confirme ou on infirme le diagnostic. Mais s'il y a besoin ponctuellement d'un entretien, d'un suivi, d'un accompagnement avec un psychologue, par exemple, qui pourrait aider la personne à développer, elle, plus de stratégies pour mieux gérer cet hyperdynamisme qu'elle présente dans l'expression de sa personnalité, ça peut être un confort important pour elle. Si le diagnostic est confirmé TDAH, des soins spécifiques qui seront à mettre en place pour elle au regard de son TDAH. Il peut y avoir une singularité de l'expression en fonction du sexe, pour l'autisme, pour le TDAH un petit peu moins, mais aussi, c'est vrai par rapport au poids socioculturel et aux stéréotypes hommes-femmes dans lesquels les enfants grandissent et évoluent. Si je grossis le trait, une petite fille qui est très sage, qui est bien élevée, qui parle pas, qui va pas trop embêter les autres, qui chahute pas, qui escalade pas tout à la récréation, c'est une bonne petite fille bien élevée à l'école maternelle. Alors que si c'est un petit garçon, il est bizarre. C'est pas normal. Donc on va avoir des éléments, des points d'appel avec des comportements qui sont attendus chez les filles. Chez les garçons, on va avoir une posture différente. Aujourd'hui, dans la prévention des violences sexuelles et sexistes, avec les différents plans qui peuvent exister en France, il y a quand même cette idée de travailler et d'accompagner les enfants dès le plus jeune âge, de leur proposer même des enseignements dédiés qui visent à déconstruire ces stéréotypes de genre-là. L'idée, c'est pas tellement de les nier, de dire ça n'existe pas et d'avoir un regard critique. Quand on va expliquer à un enfant à l'école maternelle et qu'on va chanter des comptines comme « Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince », on pourrait dire « C'est une